C'est les infos choisies et on est désolé pour les 3 premières minutes, le son est dégueulasse, mais après, rassurez-vous, ça va s'arranger.
Minutes d'infos choisies
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Bonjour.
Bonjour.
Alors bonjour à tout le monde qui nous écoutait. Bienvenue dans les infos choisies de midi et demi sur Radio Galère et pour la première fois aujourd'hui sur Radio Aioli à Avignon.
Bonjour Avignon.
Alors cette semaine, on va pas vous le cacher, on est un peu perdu.
Complètement.
Pour ne pas dire un peu perturbé, pour ne pas dire carrément bouleversé. Parce qu'on entend plein de discours qui brouillent un peu nos schémas politiques habituels. Parce que nos postes de radio sont remplis de discours d'appel à solidarité pour des réfugiés. Alors certes, pour des réfugiés blanches, européens, mais quand même, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre de voir tout le dispositif d'accueil que l'État met en place. C'est quand même bizarre d'entendre des personnalités politiques qui incitent les Français à faire de la solidarité avec des réfugiés. C'est trop bizarre d'entendre des spots qui passent en boucle sur les grandes radios nationales pour relayer ces appels à solidarité. Et c'est encore plus bizarre d'entendre le maire d'extrême droite de Béziers, Robert Ménard, s'excuser de ne pas avoir accueilli les réfugiés syriennes et d'avoir trié les réfugiés occidentaux et les autres. Bref, tout ceci est trop bizarre et aussi très énervant. Alors bien sûr, on pense très important d'accueillir les réfugiés, les exilés, toutes les réfugiés, tous les exilés. Bien sûr, on pense que c'est chouette que les trains soient gratuits pour les réfugiés, pour toutes les réfugiés. Et on salue au passage la CGT qui a fait un super communiqué dans lequel elle affirme son refus de trier les personnes à contrôler. Alors bien sûr, on pense ça, mais en fait on en a marre de cette hypocrisie de l'État français et de sa classe politique de riches. Parce que oui, peut-être que c'est passé inaperçu, mais la semaine dernière, il y a les déclarations de patrimoine des candidates à la présidentielle qui est sortie. Et alors là, on a quand même appris que Valérie Pécresse détient plus de 10 millions d'euros de patrimoine. Oh ! 10 millions d'euros déclarés. Suivi de près par Emmanuel Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, et puis Anne Hidalgo.
Emmanuel Macron.
Alors Emmanuel Macron, c'est assez surprenant. Il n'est pas en tête. J'ai plus tout à fait en tête les chiffres. Bon, il a quand même beaucoup de patrimoine, mais il n'est pas en tête.
Ok.
Voilà. Donc, ça nous énerve aussi. Ça nous énerve d'entendre ces riches se... vautrer dans des faux appels à solidarité. Et avec toute cette bizarrerie et cet énervement, et ben nous on essaie de garder le cap, de faire avec ces trucs bizarres, d'essayer de continuer à choisir les infos, à aller en manif et à se donner de la force.
Yep. Alors... on est comme ça volontairement.
Et si tu prends ta main sur moi.
Alors, on vient d'entendre des sons de la manif du 8 mars qui a eu lieu à Marseille et on avait envie de vous lire un appel féministe qui est sorti pour ce 8 mars. Peut-être que vous les avez vus, mais il y a des magnifiques banderoles qui ont été accrochées dans les escaliers de la gare Saint-Charles. Et donc, on va vous lire l'appel féministe contre les statues de la gare de Marseille. Alors, qu'est-ce que c'est que ces statues ? Pour descendre vers le centre, il faut longer des corps de femmes, deux, à l'avant de navires. Marseille, porte de l'Orient et Marseille, colonie grecque, dominent du regard deux autres corps en contrebas, les colonies d'Afrique et colonies d'Asie. Ce qui pose un problème dans les sculptures du bas, c'est leur position. Ni debout comme les statues qui glorifient la justice ou la République, ni assises droites comme les Marseilles. Elles sont à demi couchées, réduites à l'état d'objets sexuels comme des offrandes, à côté de fruits, de singes, d'objets d'art, de défense d'éléphants et d'enfants. De quoi parlent ces statues ? Déshabillées, bracelets aux bras et aux chevilles, elles sont à disposition, prêtes à faire fructifier les investissements des colons. Fantasmes porno-tropicales de marchands, d'industriels et de soldats de l'Empire, ces statues sont une tentative obscène de nier la violence exercée par les colons, les viols, l'esclavage sexuel, le travail forcé, les massacres de femmes et d'enfants. La violence patriarcale est un outil indispensable à la domination coloniale et au capitalisme. 100 ans après l'exposition coloniale, ces statues sont une interminable insulte faite aux descendantes de colonisés, d'immigrés, à toutes les femmes en particulier, celles qui ont lutté pour l'indépendance de leur pays, et à celles qui luttent aujourd'hui en Palestine, en Afghanistan, en Ukraine. Exigeons le retrait de ces statues et leur remplacement par un hommage aux femmes en lutte contre les violences d'État, le racisme, l'islamophobie et la négrophobie, et pour une société féministe et égalitaire. On va continuer avec un extrait, un son, qui est un extrait de discours qui a été prononcé pendant la manif.
De quoi ça parle ? C'est un fantasme porno-tropical. Ces statues-là, elles sont absolument immondes. Non seulement il y a des femmes offertes, il y a aussi des défenses des défunts, il y a des œuvres d'art. Regardez-les bien. Il y a aussi des enfants à poil, ben pourquoi pas, et tout un tas de fruits exotiques. C'est beaucoup plus qu'un fantasme porno-tropical. C'est vraiment une tentative de nier, d'invisibiliser toute la violence des colons. Elles n'étaient pas offertes, elles étaient violées. Et il y a eu des massacres de femmes et d'enfants. Elles ont été soumises à la prostitution, surtout en Asie. C'est ça que ces statues essayent de nier. Parce qu'en fait, la violence patriarcale, la violence masculine, elle est vraiment utilisée comme outil pour la violence coloniale, aussi comme outils dans les guerres, et c'est ça qu'il faut absolument voir quand on regarde ces statues. Cent ans après l'exposition coloniale, ces statues sont une insulte à toutes les femmes, à toutes les descendantes qui sont nés après la colonisation, pendant la colonisation, pendant l'esclavage. C'est une honte. Aujourd'hui, ces statues, elles doivent être détruites, déplacées, enlevées. Ça ne nous regarde pas, mais il faut qu'elles disparaissent. Donc une grande pensée à toutes ces femmes qui se sont battues pendant la colonisation, pendant l'esclavage, dans les guerres, et donc solidarité à toutes les femmes, pas que d'Ukraine, mais de Palestine, de Kurdistan et d'Afghanistan. Et la liste est longue, je ne peux pas continuer, mais solidarité à toutes les femmes du monde entier. 2022-2022. L'année prochaine, on n'en veut plus de ces
salaires. Si c'est pas la SNCF, ce sera nous. 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 Si c'est pas la SNCF, ce sera nous.
Voilà, on vient d'entendre un son d'un discours en bas des marches, et le son, la prise de son et le montage ont été réalisés par Amanda Jacquel. Merci Amanda.
Merci. Merci, ça fait vraiment trop du bien d'entendre des sons de manif comme ça.
Les infos choisies vendredi.
Les infos choisies vendredi 12h30.
Donc c'est en temps de crise que se construisent les discours qui visent à détourner le regard du merdier que les politiques et autres nervis ont foutu. Il nous faut des réponses à l'effondrement de nos conditions de vie. En fait, il nous faut surtout des moyens. À défaut de nous en donner, ce qui serait quand même le plus logique, il est beaucoup plus économique pour les gens de pouvoir de pointer la responsabilité de leur connerie sur l'ennemi facile, l'étranger. Diviser une société pour la diriger est la stratégie de tous les pouvoirs. Les discours xénophobes ne sont pas l'exclusivité de l'extrême droite. Les discours d'extrême droite permettent aux autres partis d'ouvrir la voie au populisme, de les utiliser comme limite afin de nous faire croire qu'il vaudrait mieux avoir comme dirigeants des personnes soi-disant modérées plutôt que d'avoir... ces fous furieux, autoritaires et dictatoriales. Tous les discours politiques ne cessent de s'équilibrer pour s'entraider. En Angleterre, en 1979, Thatcher est élue. Grâce à sa critique de la politique d'immigration du Parti travailliste. Alors que le National Front dépassait les 20% aux élections locales, elle se fait passer pour l'arbitre et récolte un max de voix qu'elle dit avoir sauvé des extrémistes. Et tout ça avec un discours ultralibéral, xénophobe et autoritaire. Une politique qu'elle mettra en œuvre pendant tout son mandat, notamment au travers de l'institution du British Nationality Act de 1981, qui réduit l'accès au droit du sol à toutes les populations issues des anciennes colonies. Idée émanant directement du British National Front, créé en 1967. Alors ça, c'est une bande de petits suprématistes blancs qui défendent l'idée que seuls les blancs peuvent acquérir la citoyenneté britannique. Et tout ce beau programme, après avoir colonisé le tiers de la planète, l'idée de leur supposée supériorité a une histoire, un peu comme la France, celle de la colonisation. Donc, en plus d'exploiter, de les asservir et de les tuer, les colons continuent et estiment avoir apporté au peuple colonisé la prospérité et l'ordre, et que sans leur intervention, les peuples auraient été en prise à la barbarie et à la sauvagerie. Coloniser les terres, c'est aussi coloniser les esprits. Cette idée est bien ancrée dans les institutions occidentales et reste toujours un moyen de diviser une population qui, si elle serait solidaire, renverserait les pouvoirs d'un revers de la main. Il y en a eu pourtant des solidarités en Angleterre. Dans les années 70, beaucoup se sont battus alors que l'extrême droite était en train de cartonner dans les milieux populaires. C'est ce que nous raconte le mouvement Rock Against Racism. Alors que des figures publiques comme Eric Clapton ou David Bowie prennent des positions ouvertement racistes et fascistes, ce mouvement veut assumer publiquement que certains ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui de vous passer la chanson de X-Ray Specs, Identity, au travers de la voix de la chanteuse Polly Styrene, qui en 78 chantait qu'elle n'était pas d'accord.
Yeah! Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi,
les midi 30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Alors, nous voulions aussi vous passer quelque chose, enfin un petit extrait d'une intervention que Marlène Schiappa a faite donc sur France Info, je ne sais plus quel jour, et où elle raconte comment elle compte gérer l'accueil des réfugiés, puisque Macron lui a confié cette gestion. Et donc on va écouter son intervention dans 2 minutes.
France Info. Bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
C'est à vous qu'Emmanuel Macron a confié l'organisation de l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. Ils seront bientôt 2 millions à avoir quitté leur pays, chiffre qui pourrait monter à 5 millions, c'est ce que dit la Commission européenne.
Marlène Schiappa, est-ce que le gouvernement s'est fixé un nombre maximum de réfugiés à accueillir en France ? Non, pas du tout. Non, non, dès qu'il y aura des familles ukrainiennes qui viennent en France et qui auront besoin de la France répondra présente. Nous nous sommes au contraire fixé l'objectif de dire que chaque Ukrainien qui arrive doit pouvoir avoir un logement. Et donc nous sommes en train de coordonner les services de l'État, mais avec aussi l'engagement des élus, mais également les entreprises privées, parce que certaines font part de leur volonté de mettre bénévoles gratuitement en fait à disposition des familles ukrainiennes des logements. Donc c'est un statut provisoire de protection immédiat. Un Ukrainien qui arrive en France aujourd'hui, immédiatement, il est sous statut de protection et qui leur offre les mêmes garanties que le statut de réfugié.
Pour combien de temps et est-ce qu'ils auront le droit de travailler en France ?
Alors, ils ont tout à fait le droit de travailler. Je disais les mêmes garanties que le statut de réfugié. Donc, ils ont une autorisation de travail et un accompagnement également social. Et c'est un statut qui est renouvelable, qui peut être renouvelé plusieurs fois. Sans bénéficier, c'est un peu technique, mais sans bénéficier de ce statut avec un passeport biométrique, ils peuvent déjà rester 90 jours renouvelables une fois. Et avec ce statut, ça peut être jusqu'à un an qui peut être ensuite renouvelable.
Pour ceux qui sont partis sans passeport ou qui l'ont perdu ou qui n'ont tout simplement pas eu le temps de le prendre avant de partir, il se passe quoi quand ils arrivent en France ?
Il y a une souplesse, évidemment. Nous, on a donné des consignes avec Gérald Darmanin.
La parole suffira ?
Avec la parole suffira, mais c'est qu'il y a, quand vous voyez dans une famille, il y a des gens qui ont leur passeport et puis un des membres de la famille qui n'a pas son passeport. Bon, il y a des personnes qui fuient la guerre, hein, donc je crois que l'humanité, c'est aussi de ne pas rajouter des formalités aux formalités.
Alors on est choqués, hein. On est choqués quand même. Hein.
Bah, on est choqués, en même temps on est ravis d'apprendre que les entreprises privées peuvent mettre à disposition des logements gratuits. Franchement,
bonne nouvelle.
On est ravis aussi d'entendre qu'il n'y a pas de nombre maximum de réfugiés à accueillir. Franchement, on est ravis.
On est content.
Voilà, et puis après, bah, comme on disait tout à l'heure, en fait, on est super choqués que ce soit tout d'un coup un discours qui soit réservé aux réfugiés ukrainiens. Surtout que, comme on en a déjà un peu parlé la semaine dernière, mais ça vaut le coup de le redire, ben, y a des personnes noires ukrainiennes qui sont bloquées à la frontière. Il y a des témoignages que vous pouvez trouver sur le site, notamment Info Migrants, de personnes qui racontent comment les militaires ukrainiens trient les personnes qui peuvent passer la frontière avec la Pologne. Voilà, du coup, évidemment, ça nous choque.
Ah oui, non, c'est sûr, ça nous choque. Surtout qu'on sait à quel point l'accès au statut de réfugié en France est simple. Hein. Enfin, je veux dire, il suffit quand même que de regarder les files d'attente de personnes devant l'OFPRA qui attendent depuis 4 heures du mat'. Donc je sais pas de quoi elle parle, peut-être qu'elle n'a pas été voir en fait comment ça se passe. Et aussi ce qui est d'autant plus choquant, c'est que c'est ce genre de déclaration qui semble insensée au regard d'une administration qui ne cesse de dire qu'elle est débordée. Alors là on comprend pas. Et ce même gouvernement de dire qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Enfin je veux dire, c'est des choses qu'on entend tout le temps. Et c'est aussi surtout cracher un peu à la gueule, une fois de plus, hein, parce que c'est pas la première fois, à la gueule de toutes les personnes qui dorment dans des tentes, sous les ponts, dans les gares, et qui se font déloger tous les 4 matins à coups de matraque et de gaz lacrymo. Donc en fait, on ne sait pas vraiment de quoi elle parle. Mais bon, on retient cette petite déclaration.
On devrait effectivement se réjouir, mais c'est vrai que ça fout la rage, parce que à Vintimille, à Calais, les violences continuent aussi, les refoulements, Ouais, l'accueil pas du tout inconditionnel.
Oui, sélectif.
Et alors, on s'approche de la fin de ces infos choisies. Avant de passer à la toute dernière partie agenda, On avait envie de vous tenir au courant de ce qui se passe avec Vincent Bolloré. Alors voilà, Vincent Bolloré, vous savez, c'est ce type qui est en train de construire un empire médiatique énorme et du coup qui possède de la presse écrite, des radios, des chaînes de télévision, des maisons d'édition de livres, des agences de communication, des instituts de sondage, des salles de spectacle, des jeux vidéo. Enfin bref, vous voyez bien, un quasi, comment dire, monopole.
Oui.
Pas tout à fait encore un monopole, mais en tout cas, voilà, il agrandit ses outils de diffusion. Et donc là, ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, c'est qu'il a racheté une partie des éditions Hachette. En tout cas, il est devenu actionnaire principal, ce qui fait que plus de 70% des livres scolaires, une centaine de maisons d'édition et la moitié des livres de poche vont être concentrés entre ses mains. Mmh. Donc ça, c'est vraiment flippant. Et du coup, il y a tout un tas de personnes qui est de collectifs et de médias et d'organisations, de syndicats et tout ça qui s'organisent ensemble pour riposter. Et il y a un appel qui est trouvable sur Internet qui s'appelle Stop Bolloré, qui est déjà signé par plus de 100 collectifs, organisations, etc., qui est à relayer. Et voilà, on vous tiendra au courant de la suite.
Alors maintenant, peut-être qu'on peut passer à l'agenda.
Est-ce qu'on écouterait un peu de musique avant ?
Oui. Ah, merci.
Génial. Et c'est Kay Tempest.
Pulling nervousness. I love the way you crumble into chalk at your edges. I love the way you fade into a sky that is as endless as your willingness to try. Keep going, and it will get better. I love the way you push to get clear. I love the way you dance to get strong. Ancient, slick clay, rock formed, wet sand, moss born. What came before? And what will come after? Beneath the orderly cues, the bad moods, the nice views, the have-nots and have-tos, the night shifts in flat shoes, the discarded masks, the empty tubes, the colds, the flus, the reds, the blues, the buy-to-let, the play-to-lose, the white ace, the grey goose, the Michelin star, the fast food, the straight lies, the strange truth. I can hear the deep rasp of your laughter, joyful. Beneath the stifled resentments and microaggressions.
Donc nous allons passer maintenant à l'agenda de la semaine qui arrive. Donc lundi 14 mars à 18h30, il y aura à Manifesten une AG de lancement du comité de soutien à la ZAP de Pertuis. Alors la ZAP de Pertuis à Marseille. Alors c'est un projet d'agrandissement de 86 hectares de la zone industrielle de Pertuis qui induit forcément l'expulsion d'une centaine de personnes.
Et puis pour terminer ces infos choisies, on avait envie de vous parler de la semaine prochaine AIDS Crisis is Still Beginning du 14 au 17 mars, qui est organisée à l'occasion de l'expo au MUCEM VIH-SIDA, l'épidémie n'est pas finie. Et la semaine prochaine, il y a toute une semaine avec notamment beaucoup de projections au cinéma La Baleine, Alors lundi, c'est Fast Trip Long Drop de Greg Bordovitz et Tongues Untied de Marlon Riggs, qui est un documentaire incroyable, enfin un film documentaire politique sur une communauté gay noire aux États-Unis. Mardi 15 mars à 20h, toujours à La Baleine, il y a le super film de Stéphane Gérard et Vanina Géré, Rien n'oblige à répéter l'histoire. Je ne vous détaille pas tous les films parce qu'on doit rendre l'antenne, mais vous allez pouvoir trouver tout ça sur le site de La Baleine et du MUCEM. Mercredi, il y a un film à 20h qui s'appelle Un virus sans morale de Rosa von Praunheim. Et jeudi, il y a une lecture avec un groupe de femmes porteuses du VIH. Et la lecture s'appelle « Encore heureux », c'est à 19h et c'est suivi d'une projection « Nothing without us, the women who will end AIDS ». Et c'est au théâtre de l'œuvre. Voilà. Et puis ensuite, il y a un week-end que je détaille pas au MUCEM, tout le programme sur le site du MUCEM et sur celui de La Baleine.
Voilà, les infos choisies, c'est fini.
Un grand merci à la technique,
merci,
bravo.
La technique,
ah
bravo.
Non, des excuses de la technique pour toutes les trous, les saturations et tout ça, les mauvais enchaînements.
Nous, on a trouvé ça farpé.
Et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.